Simon Tellez, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
Pourquoi vous suggérez ou recommandez d'interdire toute relation entre un enseignant et un étudiant?
Pour nous, c'est important de l'interdire parce que lorsqu'il y a une relation d'autorité entre un professeur et un étudiant, puis là, on parle vraiment d'un cas de relation d'autorité, mais pour nous, le consentement qui est exprimé, en fait, on peut pas s'assurer de sa validité, justement parce qu'il peut être vicié par ce lien-là d'autorité.
Mettons un étudiant ou une étudiante qui a une relation avec un prof, on peut pas être sûr à 100% qu'elle l'a fait de son libre choix ou si elle a été influencée, par exemple, par des pressions qui auraient pu être faites par la personne en autorité en échange, mettons, ou en contrepartie d'un meilleur résultat, genre.
Exactement. C'est ce qu'on peut craindre.
Alors, est-ce que vous souhaitez interdire toutes les formes de relations entre les profs et les étudiants et étudiantes ou seulement les relations entre l'étudiante ou l'étudiant et le prof avec lequel il ou elle a un cours?
On parle vraiment là avec le professeur avec lequel il ou elle a un cours et donc en relation d'autorité. Donc, par exemple, si on a une étudiante en histoire qui aurait une relation amoureuse ou intime avec un professeur de sciences, par exemple, mais là, pour nous, il n'y aurait pas de problème s'il n'y a pas ce lien-là d'autorité. C'est vraiment là quand il y a présence de ce lien-là qui vient vicier le consentement.
OK. Puis on fait quoi? Mettons qu'au départ, j'ai une relation avec un prof avec lequel j'ai pas de cours, mais la session suivante, j'en ai un cours avec. Je fais quoi?
On a prévu en fait une exception là dans les revendications qu'on avance pour une relation qui serait antérieure à la relation d'autorité. Pour nous, ce serait une exception là qu'il faudrait préciser.
Elle serait permise.
Elle serait permise, effectivement.
Est-ce que les relations d'amitié sont permises dans votre modèle? Parce que moi, par exemple, là, j'ai eu des profs là avec lesquels je me suis lié d'amitié qui ont joué un rôle très important dans ma formation, pas juste académique, ma formation personnelle, qui sont devenus des espèces de mentors, hommes et femmes, d'ailleurs. Ça, vous ne voulez pas interdire ça, j'espère?
On ne va pas jusqu'au lien d'amitié. Là, on parle vraiment là, de consentement sexuel. Ceci dit, c'est intéressant, dans les politiques qu'ont adoptées les universités américaines de Harvard et de Yale, on va jusqu'au lien d'amitié en disant que ce n'est peut-être pas professionnel pour un enseignant ou une enseignante d'entretenir des liens en dehors des salles de cours avec ses étudiants et ses étudiantes. Mais nous, on ne va pas jusque-là. Nous, vraiment, ce qui nous inquiète, c'est que le consentement des étudiants et des étudiantes ne soit pas valide et on se limite là, aux relations qui sont amoureuses.
Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vont dire, écoutez, vous pouvez pas empêcher un cœur d'aimer, là. Qu'est-ce que vous faites avec un étudiant qui tombe en amour de son prof ou encore la prof qui tombe en amour d'un étudiant, vous faites quoi?
Ce qu'on dit, en fait, ce qu'on sait plutôt, c'est que 95% des agressions sexuelles sont pas dénoncées, sont pas rapportées. Et donc, nous, dans une situation comme celle-là, on pense que la meilleure chose à faire comme société, c'est d'identifier cette situation-là problématique et de l'interdire. Maintenant, c'est certain qu'il y a des cas où le consentement serait effectivement valide. Et dans ce cas-ci, il faudra mettre en place des solutions pour s'assurer que tout le monde est bien dans ce contexte-là.
Mais vous avez l'air de dire on l'interdit, mais si jamais ça arrive, il faudra trouver une façon d'accommoder la relation.
Non, ce que je dis, c'est qu'il faut l'interdire formellement, puis lorsqu'on a connaissance que cette relation-là a lieu, bien, il va falloir prévoir des mécanismes très clairs qui vont dire, par exemple, est-ce qu'on met fin à la relation pédagogique? Est-ce qu'on trouve un autre professeur ou un autre superviseur de thèse qu'on est au cycle supérieur? Je pense qu'il faut être très clair là, sur le fait qu'il faut l'interdire. Il faut juste préciser qu'est-ce qu'on fait une fois que la relation est dévoilée.
OK. Puis c'est quoi les possibilités, mettons?
Les possibilités auxquelles on peut penser, là, ça pourrait être, par exemple, d'avoir une sanction disciplinaire pour les professeurs qui vont entretenir ce genre de relations-là. Pour nous, c'est important que ce soit la responsabilité du professeur et du professeur, comme c'est lui ou elle qui est titulaire de ce lien-là d'autorité envers l'étudiant ou l'étudiante. Et donc, on peut penser à une sanction disciplinaire, par exemple. On peut penser justement au fait de changer de superviseur ou d'avoir un co-superviseur dans les cas des étudiants et des étudiantes de cycle supérieur pour s'assurer justement qu'il n'y ait effectivement pas de problématique à ce niveau-là puis que le cheminement puisse se poursuivre. Donc, c'est deux solutions auxquelles on pense.
OK, mais changer de superviseur, moi, j'achète ça. Mais une sanction disciplinaire contre un prof qui serait tombé amoureux ou amoureuse, là, j'ai un problème avec ça parce que c'est comme si vous vouliez pénaliser l'amour.
En fait, on porte pas de jugement en fait sur cette pratique-là, puis on dit pas que les professeurs ou les étudiants sont de mauvaises intentions dans ces relations-là. Ce qu'on identifie, c'est vraiment une situation où il y a beaucoup de problématiques. Puis c'est vrai qu'il y a des cas où peut-être qu'il n'y aurait pas de problème, mais quand on voit les statistiques auxquelles on est confronté, on pense que collectivement, c'est important de prévenir cette situation-là le plus possible puis d'avoir la ligne dure.
Je suis d'accord avec vous qu'une agression, un cas d'harcèlement, c'en est un de trop, là. Puis je suis d'accord avec vous que la notion d'autorité peut vicier très souvent la notion de consentement. Mais vous ne pouvez pas écarter de votre état d'esprit, de votre pensée, la possibilité d'une réelle relation amoureuse où deux personnes sont en amour, sincèrement, sans qu'il y ait eu abus de pouvoir.
Absolument. C'est possible que ça ait lieu. Mais selon nous, il y a difficilement de demi-mesures qu'on peut faire dans ce cas-là. Donc, je pense qu'on doit être clair. Puis c'est une situation qu'on veut éviter. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette position-là qui est assez tranchée sur la question.
OK, mais pourquoi ne pas dire, dès qu'il y a une relation, il faut la dévoiler? Ça, je suis d'accord. Dès qu'il y a une relation, s'il y a un rapport d'autorité, il faut casser le rapport d'autorité, donc changer de superviseur. Mais pourquoi faut-il punir?
C'est un aspect contraignant. Selon nous, si on n'a pas une sanction qui est associée à ça, bien, c'est une pratique qui va continuer d'arriver. C'est pas toujours suffisant non plus de changer de directeur ou de directrice de thèse, par exemple, au CQPA, parce que soit on est dans des domaines de pointe qui sont très précis, puis la solution de changer de directeur ou de directrice, elle peut, en fait, être un frein supplémentaire à la dénonciation pour les étudiantes et les étudiants. Imaginez, quand ça fait plusieurs années qu'on travaille sur un projet dans un domaine très, très pointu, bien, dénoncer, en fait, cette relation-là, ça peut vouloir dire pour nous de perdre cette relation-là d'encadrement et de perdre cet objet-là d'étude sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important qu'il y ait une autre sanction à ça, et c'est pour ça qu'on propose une sanction disciplinaire.
Ça vous est jamais arrivé, vous, de tomber en amour avec un prof ou une prof?
Non, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Mais
est-ce que vous connaissez des amis à qui c'est arrivé?
Je connais des gens à qui c'est arrivé, puis on a surtout beaucoup de témoignages au niveau des associations étudiantes locales, des situations où ça se produit, où les étudiantes, les étudiants sont très mal à l'aise, sont très inconfortables. Et je suis certain qu'il y a des professeurs aussi qui sont mal à l'aise dans ces situations-là, et qu'il y a des syndicats de professeurs qui voient d'un bon œil l'interdiction de ces rapports-là. Mais oui, ça se produit sur le terrain, puis on doit se questionner là-dessus.
Mais quand ça arrive, est-ce que, de façon générale, c'est plutôt le prof qui tombe en amour de son étudiant ou de son étudiante, ou l'inverse, dans votre expérience personnelle, là?
C'est très difficile à dire, là. Je vous dirais que ça se passe des deux parties. Mais nous, c'est sûr, on a un rapport avec les étudiants, donc c'est eux qui viennent nous voir. Mais c'est
assez... Quand ils vont vous voir, en général, c'est parce qu'ils sentent l'intérêt d'un prof ou c'est parce qu'ils sont tombés en amour d'un prof?
C'est parce qu'ils sentent l'intérêt d'un professeur ou d'une professeure, puis qu'ils sont mal à l'aise face à la relation académique qu'ils ont avec eux et qu'ils ont peur de représailles ou qu'ils se sentent inconfortables dans cette situation-là. Puis on pense que justement, en sanctionnant cette pratique-là, dans un cas de déontologie, en disant très clairement que c'est une situation qu'on trouve qui n'est pas acceptable, bien que ça préviendrait ce genre de choses-là d'arriver.
Et vous faites quoi dans ce temps-là quand ils vont vous voir? Est-ce que vous allez voir le prof? Est-ce que vous allez voir, je sais pas moi, l'équivalent du protecteur des étudiants ou comment?
Absolument. Mais quand des étudiants et des étudiantes viennent nous voir, on a des ressources présentes dans les établissements. On manque de ressources. Là, ça, c'est une autre problématique, puis c'est une autre demande qu'on fait dans le cadre du projet de loi, c'est d'avoir des ressources de soutien pour les personnes survivantes dans les établissements. Mais généralement, on va les référer à ces ressources-là. Puis il y a des démarches qui vont être faites là, auprès des différentes facultés, mais il n'y a pas d'uniformité à travers non seulement les différents programmes dans une université, mais encore moins à travers le réseau d'enseignement supérieur. Donc, c'est du cas par cas, c'est un peu disparate partout, et on compte sur ce projet de loi 151 pour clarifier la ligne pour l'ensemble du réseau.
En terminant, vous ne trouvez pas que ça va loin, ce que vous suggérez? Il y a des gens qui nous écoutent, j'en suis convaincu, qui vont se dire... On a déjà dit que l'État avait rien à faire dans la chambre à coucher de la nation, et là, on est en train d'inviter l'État à policer, à faire la police des relations amoureuses, des relations affectives sur les campus du Québec. Est-ce que vous ne trouvez pas là, qu'on est en train de légiférer les relations intimes, on est en train de légiférer l'amour, là, ça devient un peu excessif?
Je comprends qu'il y a des gens qui trouvent qu'on va loin, mais encore une fois, quand on met en perspective les statistiques où tellement de cas d'agression ne sont pas dénoncés, où tellement de situations où des étudiantes se sentent inconfortables ne sont pas dénoncées, ben on pense que c'est le seul pas qu'on peut faire dans cette direction-là. Puis c'est le devoir, en fait, du gouvernement de légiférer sur certaines pratiques pour protéger la population, une population qui est vulnérable. Puis on pense que cette mesure-là va tout à fait dans ce sens-là. C'est ce que fait chaque loi, en fait, de restreindre une certaine liberté lorsqu'on identifie une situation qui est particulièrement problématique. Et pour nous, celle-là est vraiment criante, là, identifiable.
Il y a vraiment beaucoup de cas qui vous sont rapportés?
Il y a beaucoup de cas qui nous sont rapportés.
Surtout des femmes,
et il y a surtout beaucoup de cas qui ne nous sont pas rapportés.
Ça, c'est vrai. Simon Tellez, président de l'Union étudiante du Québec, qui, pour les fins de la discussion, là, c'est la nouvelle grande association étudiante dans le milieu universitaire qui ils ont un peu repris l'espace politique qui a été qui était jadis occupé par la FEUC. Merci, M. Thalès.
Merci, M. Drainville. Bonne fin de journée.